Bonsoir. Je comptais parler de Question d'être, qui est un livre, je crois, assez dense et qui porte comme sous-titre Entre Bible et Heidegger. Et au lieu de dévier de ce projet, je vais vous montrer qu'au contraire, il permet d'éclairer l'événement. Autrement dit, j'espère qu'on fera d'une pierre deux coups, c'est-à-dire montrer que la pensée de l'être et le rapport à l'être, ce n'est pas une abstraction. D'ailleurs, la dernière fois, on a parlé des identités. Les identités sont un certain rapport à l'être, c'est-à-dire à l'infini du possible. Comment va votre possible? Ben, c'est une vraie question. Quel est votre rapport au possible? Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites j'ai fait mon possible et le possible de l'autre? Ou de l'être, que je définis en passant rapidement comme l'infini des possibles, c'est-à-dire l'infini de ce qui peut être, de ce qu'il se peut. Et donc, ce sont des questions tout à fait concrètes et que je vais faire tourner ce soir autour de l'idée de partage, avec cette idée que l'être est partagé, l'être, l'infini du possible est partagé, et que tout être, tout fragment d'être, toute part d'être est partagé. Vous allez me dire, mais c'est vachement abstrait. Ben, je vais partir d'un exemple clinique. Imaginez que vous ayez devant vous, je ne sais pas, un de vos parents. Allez, on prend quoi? Un père ou une mère? Peu importe. Et qu'il est en train de distiller, de rayonner sur vous ce qu'on appelle ses symptômes, ses impasses, sa façon de voir les choses. Et vous prenez ce discours comme un énoncé de vérité. Voilà. Pourquoi? Parce qu'enfant, vous avez dû le percevoir comme l'ultime vérité même. Et vous oubliez ce faisant que cet être-là, ce père ou cette mère, est partagé. C'est-à-dire qu'il y a en lui ce réacteur qui bavarde, qui envoie des rayons, et qu'à côté, il y a autre chose. Évidemment, vous n'êtes pas payé pour percevoir cette autre chose, vous n'êtes pas toujours à la bonne place. Et du coup, vous oubliez que vous-même, vous êtes partagé entre le temps où vous écoutiez ça comme parole d'évangile et maintenant où vous écoutez ça comme l'histoire d'un bonhomme qui certes vous touche, vous atteint, mais ça n'est que une partie de son histoire, de ses rapports avec l'être. Quand il dit c'est comme ça veut dire que pour lui l'être est tout entier comme ça. Évidemment. Le rapport à l'être, ça vous suggère de prendre un peu de distance, c'est-à-dire justement de voir que ça relève du possible. Il est possible qu'il en soit ainsi, que vous ayez ce père-là, et que vous ayez cette épreuve-là où vous risquez d'être sacrifié à son symptôme. Il n'y a pas que Isaac qui a failli être sacrifié, hein, et où vous risquez aussi d'éluder ce sacrifice. Et là aussi, il n'y a pas que pour Isaac que le sacrifice a été éludé. En gros, vous n'êtes pas zigouillé. Ça vous a rendu la vie très difficile. Sans plus. Vous avez quand même de la vie. Devant vous, derrière vous, vous avez ce que j'appellerais du jeu. Et ça a l'air tout simple ce que je vous raconte, mais quand, à propos de jeu, quand quelqu'un dit, voilà, je lui ai dit telle chose et il m'a incendié. Alors j'ai laissé tomber. Voilà, une phrase banale. Mais ça veut dire que ce bonhomme qui a entendu ça, il ne s'est pas senti partagé. Il s'est senti d'un seul tenant. Donc il a été incendié. Alors que l'autre lui a envoyé une petite brûlure dans une des parties vaguement accessibles de son discours. Donc il l'a incendié. Et du coup, il n'a pas eu de répartie. Voilà. Qu'est-ce que tu as répondu? Ben, rien. Vous avez vu ce que ça. Mais non. Il y avait une partie de lui qui. Une partie de l'être qui, à travers lui, a fait ça. Et une partie de toi qui a reçu ça, mais qui n'est pas la partie finale. Voilà. Il y a de la partition. Donc de la musique, plus ou moins polyphonique. Alors cette histoire de partage, j'y ai repensé rapidement l'autre jour parce que à la fin d'un dialogue radiophonique avec un spécialiste de l'islam, j'ai dit, vous savez, pour moi, le problème, au fond, ce n'est pas l'islam, c'est l'homme occidental coupable et incapable de soutenir sa dignité. Et s'il la soutenait, s'il la défendait face à l'autre, eh bien, il défendrait aussi du même coup la dignité de cet autre, votre dignité. Et justement, le monsieur a répondu, je prends ça comme une insulte. Je me suis dit, c'est curieux. C'est curieux de prendre ça comme une insulte, car je disais que la dignité est un partage, qu'on ne peut pas être dans la dignité tout seul, comme ça, devant son miroir, à être digne, à prendre des poses de dignité. La dignité, c'est une relation. Et dans cette relation, chacun joue son rapport à l'être. Et tous les deux, on est sous le regard de l'être, du possible, de la vie, du temps. Et si on s'en sort dignement, bah c'est pas mal. Voilà. Chacun aura soutenu quoi? Eh bien, son être face au possible. Il ne s'est pas dégonflé. Il n'a pas non plus dit, ça c'est ma dignité à moi et tu n'y touches pas. Mais non, puisqu'on est impliqués tous les deux dans la même relation, dans le même problème d'existence. Alors, évidemment, vous verrez que ça, c'est pas si loin du thème de ce livre où j'explique dans ce livre que Heidegger n'a pas pu supporter un partage de l'être avec, je dirais, les juifs antiques. Parce que les juifs modernes, ce qu'il avait sous les yeux, c'était des juifs qui étaient tout prêts à troquer l'être pour l'universel et la singularité pour l'assimilation. Mais lui a été capté par la pensée de l'être et il se l'est prise pour lui tout seul. Il n'a pas pensé que d'autres avaient non seulement défriché le terrain, mais surtout été pris dans cette pensée, été pensé par l'être, été porté par une transmission d'être. Je vous lis au hasard un petit paragraphe sur l'origine partagée et partageante. Ça veut dire que l'autre qui a aussi une origine, l'origine c'est la manière dont chacun est à bricoler son ancrage dans l'être. C'est votre départ dans l'être. Vous y êtes pour quelque chose et puis vous n'y êtes pour rien aussi. Les deux, en même temps. Et donc, vous pouvez avoir devant vous quelqu'un qui est non seulement partagé, mais partageant. Ça veut dire qui vous partage, vous, qui vous révèle votre partage intérieur que vous ne supportez pas. Imaginez que vous êtes le tenant d'une identité clivée, totale, dans laquelle il y a les bons dehors, les bons, pardon, dedans et les mauvais dehors. C'est un clivage qui existe. Et puis dedans, il y a la partie bonne du message qui a été pris chez les autres et la partie très violente qui vise les autres, qui les maudit parce qu'ils n'ont pas suivi. Et si vous relevez de cette identité et que soudain, vous avez accès à la partie violente qui est là. Ben, vous vous promenez dans la rue et l'existence de ces autres vous partage trop, vous coupe trop, vous menace trop. Et ben, vous pouvez être amené à tirer dans le tas. C'est-à-dire, cette existence même est problématique. Problématique et insoluble. Ben, c'est un petit peu des choses comme ça qui se passent et qui donnent à penser. Si on ne pense pas ces choses-là, alors on est dans... Voilà. Et d'ailleurs, après l'événement, quand des gens se regroupent, vont sur les terrasses, s'assoient, mangent, boivent, eh bien, ils font un témoignage de partage. Ils disent, on est partagé. Il y a en nous une partie endeuillée et il y a en nous une partie vivante. Il y a une partie meurtrie et une partie pleine de désir et d'appétit. C'est une façon de signifier le partage. Et pas le partage au sens partager son avoir. D'ailleurs, les gens ne partagent pas volontiers leur avoir parce qu'ils en ont fait une part de leur être. Mais ce n'est pas le partage au sens de Saint-Martin qui partage son manteau et, comme dit la chanson de Brecht dans Mère Courage, ils sont morts tous deux gelés. Non, ce n'est pas ce partage-là, c'est le être partagé. Ça veut dire le fait que on est ce partage de l'être tel qu'il est endossé par des sujets, des individus, c'est presque, et cliniquement, c'est la capacité de séparation d'avec soi et d'avec l'autre à certains moments. Et vous savez que la psychanalyse a fait beaucoup d'efforts pour étudier comment obtenir cette séparation, etc. Mais cette séparation, on dit à un sujet, oui, il faut vraiment couper le lien avec votre mère. Mais non. Déjà, il faut qu'il ait une mère pour couper le lien avec. C'est-à-dire qu'il l'admette comme mère. Mais on s'aperçoit que le lendemain, on est amené à dire à quelqu'un qui a une mère tout aussi impossible, il faut vous rapprocher de votre mère. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une question de séparation ou pas. D'ailleurs, j'ai introduit la notion de coupure-lien. Il faut faire une coupure-lien avec votre mère. Ça veut dire qu'il faut instaurer un rapport à l'être qui relève de l'entre-deux, où tous les deux vous êtes coupés et vous avez une façade qui donne sur l'abîme de l'être, sur l'infini du possible. Alors, donc l'origine comme telle est partagée. Ça, je vous signale que c'est le sous-titre d'un livre où j'ai fait l'analyse de la pensée de Lévinas. Ça s'appelle Don de soi ou partage de soi. Et c'est le sous-titre d'un livre qui s'appelle Entre deux. Entre deux, l'origine en partage. C'est-à-dire l'origine est partagée et elle est partageante. Et là, on est dans une situation où on a une origine qui est assez exposée au regard de l'autre, une origine qui a un bagage que nous connaissons bien, qui est le bagage judéo-chrétien, ordinaire, courant, et qui comporte une partie dont j'ai dit que c'est qu'elle fustige l'autre, qu'elle lui jette une négation très violente. Et ben on est dans une problématique de vérification des bagages. Hein? Qu'est-ce que vous avez à déclarer? Oh ben, rien à déclarer, tout va bien, tout va bien. Et certains font abstraction du double fond de la valise. Et je les connais. Aujourd'hui, ils sont angoissés. Qu'ils découvrent qu'il y avait ce fond-là qu'ils ne connaissaient pas. Et quoi faire avec? Et les autres en face, les Européens, ils sont devant l'horreur. Mais qui n'est pas seulement l'horreur de la violence directe, du passage à l'acte, mais ils sont devant l'horreur d'avoir à faire le constat qu'il y a ce type de problème. Parce que, c'est là qu'intervient leur narcissisme, si on dit ça, alors on stigmatise. On stigmatise. Mais non, tu stigmatises pas, tu désignes une partie. Et vous connaissez tous les schémas, tous les discours qu'on a fait sur l'amalgame. Or, savoir qu'il y a une partie pacifique et une partie agressive envers ceux dont provient la partie pacifique, ben ce n'est ni de l'amalgame, ni pas de l'amalgame. C'est comme si vous disiez que la veste que porte quelqu'un ou l'autre partie de sa valise, ça s'amalgame avec lui. Mais non, c'est des parties distinctes. Presque des compartiments. Mais les secousses d'être, l'événement d'être amène à ne plus se contenter de ce constat. Parce qu'il y en a qui vont direct fouiller au fond, qui sont capables de faire fond sur cette partie cachée et la passer à l'acte pour la faire vivre, pour la proclamer. Et ça se comprend. Et donc, j'en connais certains qui sont angoissés. C'est d'ailleurs les plus lucides. Angoissé, ça veut dire ayant une difficulté à se repérer. C'est ça l'angoisse. J'ai dit tout à l'heure à l'une qui était dans ce cas que moi, je n'étais pas angoissé parce que j'ai toujours su à quoi m'en tenir sur ce type de problème. Mais elle, elle ne connaissait pas. C'est une chercheuse musulmane tout à fait sympathique, active, critique, qui cherche à se repérer, mais c'est difficile. Et donc, ceux-là sont rares parce que on en entend d'autres qui disent, mais comment? Et qui accusent les voyageurs qui portent la valise, qui disent, comment? Mais vous êtes des nuls, vous êtes incapables, vous n'avez pas fait la démocratie, vous êtes incapables, vous n'avez pas de grands hommes, vous êtes, et qui engueulent, qui les engueulent, qui engueulent leurs frères, qui engueulent toute la Oumma. Alors que dans nos bagages, il y avait des choses magnifiques, comme pas de contraintes en religion. Ah bon, c'est curieux, parce que quand on se réfère au manuel, on voit que pas de contraintes en religion est encadré par de telles imprécations sur ceux qui font le mauvais choix, que ce pas de contraintes en religion n'a pas vraiment fonctionné et fonctionne plutôt comme une invitation à faire le bon choix en toute liberté. C'est-à-dire à ne pas se sentir contraint quand on fait le bon choix, le choix correct. Alors, voilà le... Voilà le type de difficulté. Il n'y a guère que l'identité chrétienne qui est magnifique, qui dit, mais vous êtes partagés, vous avez une partie bonne et une partie mauvaise, mais c'est très simple, on accourt avec l'infirmerie pour vous soigner la partie mauvaise. Et on dit, mais non, c'est plus compliqué, c'est un mode d'être. Oui, mais on accepte tout. Ben oui, mais on accepte tout jusqu'à ce que, en fait, on fait une violation à l'autre. Une violation à l'autre. Si vous acceptez une gifle de l'autre et que vous tendez la joue, l'autre, ben, moi j'ai dit que c'est une violation de l'autre. Ça veut dire que vous le prenez pour une machine à donner des claques jusqu'à ce qu'il s'épuise et il sera épuré, il sera magnifique, aussi pur que vous, et donc ce sera un type bien. C'est un peu, voilà, c'est un peu exagéré, ça tend vers un symptôme, vers un montage sadomaso, on va dire. Alors, donc le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'il règne, quand on parle de partage, un mode de pensée totalitaire. Vous sentez le paradoxe? Pour parler de parti, on a un mode de pensée qui est de l'ordre du tout ou rien. Alors s'il y a un rien qui objecte, on va dire c'est rien. Mais non, c'est pas rien. Et ce n'est pas rendre service aux gens que de dire mais non, c'est rien, c'est rien. Et vous voyez comment le concept d'amalgame et son contraire sont faux. Ce n'est pas de l'ordre de l'amalgame, c'est de l'ordre d'un trait distinctif qui existe dans une certaine identité, et C'est l'impuissance des autres à le nommer et à le reconnaître parce que dans la pensée universelle occidentale, s'il y a un trait distinctif dans une identité, il faut qu'on le retrouve partout ailleurs. Autrement dit, il faut qu'il ne soit pas distinctif. C'est là que la pensée universalisante se casse les dents sur des différences irréductibles et qui ont leur sens, je dirais, poétique et politique. Moi, j'ai une certaine admiration pour le prophète de l'islam qui a fait une opération sur les textes précédents qui est géniale, qui est de se les faire communiquer par les marchands du coin, puis ensuite considérer que ça dérivait directement du ciel, donc il leur doit rien, mais du coup, ils pensent quand même qu'il leur doit quelque chose, alors ils s'empoignent avec eux, puis finalement ils décident que ceux qui ne marchent pas dans cette nouvelle identité qu'il a créée, eh ben c'est vraiment des pervers, des mauvais. C'est des obstinés. Et donc, le partage qui en résulte, c'est un partage de la planète en deux parties. Le camp de la paix, c'est le mot, c'est le sens du mot islam, et le camp de la guerre, c'est-à-dire où il y a la guerre potentielle, pas forcément actuelle, mais il y aura toujours de la guerre tant que l'autre n'a pas finalement accepté de se soumettre. Voilà un aspect donc intéressant. Alors on entend évidemment dans l'identité occidentale ou européenne, on entend des signes d'auto-aveuglement. Il vaut mieux s'aveugler que de être obligé de changer de logique et de dire, voilà, il y a un événement historique, il y a eu un coup de force politico-poétique qui a élaboré un certain message, qui a constitué une masse de fidèles et qui maintenant pose problème parce que le double fond de la valise devient visible. Voilà. Et il ne contient pas forcément une bombe, il contient juste une vindicte envers les autres qui peut, à l'occasion, s'incarner dans un objet dangereux. Donc, exemple d'auto-aveuglement, j'entends, mais nous, les Occidentaux, on n'a pas cessé de bombarder des pays arabes. Il faut comprendre quand même que ces gens nous envoient après des gens pour venger cet abus qui ne fait que prolonger l'abus colonial, etc. On entend ça. C'est-à-dire que les gens sont capables de faire une coupe dans le mouvement de l'histoire pour oublier que est partie d'Afghanistan une organisation qui a fait le 11 septembre, par exemple. Et que ça a motivé cette réaction qui n'était pas forcément des plus intelligentes, mais ça a motivé cette réaction. Sinon, les Occidentaux, en tout cas oui, les Occidentaux n'avaient pas grand-chose à foutre dans ces contrées-là. De même, si l'État français décide de faire quelque chose, c'est que on lui a envoyé déjà des gens de là-bas, de Syrie ou d'Irak. Bon, il dit, bon, il faut faire quelque chose. Et simplement, est-ce qu'il est en mesure de soutenir ce mot guerre qu'il prononce, à mon avis, à la légère? À la légère, sans absolument se rendre, sans nullement se rendre compte de ce qui est en jeu. Parce que les lieux d'entraînement à des milliers de kilomètres, vous pouvez les bombarder, ce qui d'ailleurs ne les détruit pas, mais le lieu d'entrée où on est entraîné à, qui est aussi un lieu d'entraînement, c'est le lieu où on étudie la partie vindicative du texte. Et donc, comment? C'est ce que j'appelais la vérification des bagages. Est-ce que les gens déposent ou non cette partie vindicative, ou est-ce qu'elle fait partie du bagage? C'est un vrai casse-tête, mais c'est un vrai casse-tête qui a sa valeur concrète. Ça veut dire que vous ne pouvez pas toucher à l'ensemble de la valise, mais du coup, si les tueurs, vous observez que chaque fois, ils sont connus, au moins en partie, donc on pouvait connaître leurs amis qu'on ne connaissait pas, mais qu'on ne peut pas les arrêter puisqu'on n'a pas de preuves, c'est-à-dire puisqu'ils n'entrent pas dans notre logique. Or, ce sont des gens, c'est précisément parmi les gens modérés que se recrutent ceux qui passent à l'acte. Parce que soudain, ils découvrent que l'acte, non seulement est possible, mais nécessaire. Donc, la réaction à ce genre de problème, du point de vue de la logique universelle ou de la logique que j'appelle de l'ordre, n'est pas vraiment adéquate. Et d'ailleurs, on voit un certain mouvement comme ça de sécurisation dans les rues, mais on ne peut pas sécuriser toutes les rues. Et puis dans quelques temps, ça baissera jusqu'au massacre suivant. Donc grâce à une certaine identité, l'Occident accède à la parole de Nietzsche, il faut vivre dangereusement. Voilà, c'est un apport qui a tout à fait son sens. Donc c'est très important aussi de voir ce partage. Même les gens qui passent à l'acte, ils étaient partagés. Ils sont partagés. Ils étaient avant très calmes. Et d'ailleurs, quand vous entendez dans les médias qu'on raconte comment ils se sont radicalisés, leurs coreligionnaires eux-mêmes disent, oui, bizarrement, il s'est mis à aller de plus en plus souvent à la mosquée. Donc il est allé se recharger de textes de fond, et une fois qu'il a été chargé, à bloc, il a explosé. Et donc, il y a une espèce de logique là-dedans qui oblige à penser la question du partage d'une façon un peu plus essentielle, justement plus ontologique, plus liée au partage de l'être. J'ai parlé l'autre fois d'autres identités. L'identité juive, elle est partagée, mais tellement dans tous les sens qu'elle ne sait pas toujours où donner de la tête, mais elle avance comme ça, bon an, mal an, comme un orchestre cacophonique, et ça tient plus ou moins parce que justement, on ne cherche pas l'unité sonore. Vous voyez, à la limite, s'il y en a, bien sûr, certains sont sensibles et disent, mais j'ai à côté de moi un type immonde qui se prétend lui aussi juif alors qu'il ne supporte pas l'État hébreu. Ben, c'est comme ça. Hein, il y a des juifs imparfaits, c'est ceux que je préfère, et puis il y a des juifs parfaits, c'est-à-dire des gens qui veulent présenter une face et une façade tellement lisse qu'il n'y ait pas d'objection. Et là, c'est grave parce que si ça prenait du pouvoir, si ça prenait de l'importance, ce qui n'est pas le cas, des juifs parfaits, ça serait en un sens des juifs morts. Et c'est pas bien, c'est dommage d'être mort quand on peut être vivant. Alors tout ça, ce sont des choix de possibilités. Et donc, la question du rapport au possible, que j'ai évoqué rapidement au début, eh bien, elle est posée. Elle est posée sur tous les plans et j'insiste sur le fait que il y a toujours un plan clinique où elle est posée. Je veux dire que la question de l'être, c'est-à-dire du rapport à l'infini du possible, rejoint ce que la psychanalyse a appelé castration. Castration, ça veut dire que ce que vous n'êtes pas ou que vous n'avez pas est possible. Et est possible pour vous et est possible aussi pour l'autre. L'autre n'est pas d'un seul tenant et vous non plus. Et il vous manque quelque chose qui, si vous le recevez, s'appellerait votre manque à être et c'est ce qui vous sert à avoir un mouvement d'être. C'est donc ce qui vous sert à accepter d'être entamé. Et si vous ne le faites pas, eh bien, l'événement se chargera de vous le marteler dans la tête. Et si vous n'entendez toujours pas, ben vous serez angoissé, inhibé, malheureux, etc. Alors que si vous envisagez ce partage d'être, eh bien, vous n'aurez pas à faire toute cette gymnastique mentale qui s'appelle le clivage, le déni, le refoulement, l'oubli, etc. Et donc il ne s'agit pas, il s'agit de savoir cela, bien sûr, de l'intégrer, mais il ne s'agit pas de se dédoubler entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Et vous savez que ça devient la mode de s'afficher comme celui qui ne sait pas. Vous n'avez jamais entendu des agents culturels dire, ben voilà, moi je suis un peu perdu, je ne sais pas, mais j'apprends de n'importe qui. Ils sont saturés de non-savoir, donc ils savent. C'est-à-dire que en réalité, il y a beaucoup de façons d'échapper à cette entame et d'éviter ce que j'appelle l'épreuve existentielle, qui est celle de s'affronter au possible et de le reconnaître comme tel, comme autre possible. Si vous me disiez votre rapport au possible, je vous dirais comment est faite votre mémoire, votre rapport au désir, etc. C'est très curieux qu'on ait parlé de toutes sortes de choses, du désir, de l'autre, de l'objet du désir, etc. Mais qu'on ne parle pas de la manière dont chacun fréquente le possible. Et c'est même d'autant plus étonnant que m'est revenue une parole d'un grand psychanalyste, Lacan, qui lui dit simplement, le réel, c'est l'impossible. Ah non. On a quand même des rapports au réel qui passent par le fait que c'est une approche de l'être, donc de l'infini du possible. Il se peut que l'infiniment possible prenne des allures d'impossible. C'est possible. Mais en principe, vous êtes en proie à l'infini du possible. Lorsque vous ne voyez pas les possibles d'une situation, c'est que vous avez peur d'être angoissé. Parce que s'il y a deux possibles, et si vous êtes un petit peu hésitant, notamment si vous n'avez pas un support d'être, c'est-à-dire un petit carré infime où poser vos pieds et vous tenir verticalement devant l'infini du possible, Et ça, c'est une ritournelle biblique. Dans la Bible, ça se dit l'ifné Hachem, devant le nom, c'est-à-dire devant la possibilité d'être appelé autrement. Si vous n'avez pas ce petit support, donc cette petite confiance dans l'être, que moi j'appelle amour de l'être, bah, c'est sûr que vous aimez mieux ne pas voir les possibles. Parce que, imaginez, vous êtes un peu obsessionnel, compulsif, vous allez passer d'un cliché identitaire à vous à un autre cliché identitaire, vous allez passer de votre sensation d'être coupable à votre culpabilité pour le fait d'être coupable. Et ainsi de suite, et ça tourne en rond, et il n'y a pas d'ouverture sur l'être. Donc il faut quand même que vous soyez donné, que vous soyez accordé, que vous ayez pu entendre un appel d'être qui fait que vous n'êtes pas entièrement livré à ce que vous êtes. Ce que vous êtes comporte nécessairement une fenêtre sur l'être. Voilà. Et donc, à chacun d'assumer cette localisation de l'être qui lui donne lieu. Et donc, vous remarquez que je ne définis pas l'être à la manière des Grecs comme la présence continue. Non, l'être a une présence continue et discontinue. L'être est lui-même partagé, est lui-même une transmission d'être. Il y a une belle phrase dans les Proverbes, qui est un livre biblique, qui dit: il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme, mais l'idée de l'être, c'est elle qui l'emporte. Ça fait penser un peu à Héraclite. Le temps est un enfant qui joue à déplacer les pièces de son jeu, et c'est l'enfant qui l'emporte. Ou à l'enfant la souveraineté. La pensée de l'être, c'est juste le fait de se poser comme en rapport avec l'infini du possible. De ce côté-là, ça pense. Et donc, cette pensée renvoie l'acte de penser à l'acte de compter. Et ce n'est pas très bien vu chez certains philosophes, l'idée que penser, c'est compter. Parce que ça fait calcul, ça fait sordide. Voyez, vous comptez alors qu'on est devant l'impossible à compter, devant l'innombrable. C'est un peu une fausse objection. Parce que dans compter, il y a l'acte de compter pour quelqu'un, de compter pour vous-même, d'être tel que l'autre compte pour vous. C'est-à-dire, penser, c'est la capacité d'inscrire comme présent, en présence de l'être, soi-même ou l'autre. C'est donc le commencement d'un partage de dignité. Si tous les deux, on est face à l'être et que chacun compte pour lui-même en tant qu'il est en rapport avec l'autre et avec l'être, alors il y aura de la pensée. Il n'y aura pas une rivalité de qui est le plus digne. Il y aura peut-être même une émulation dans le fait que le compte de chacun est entamé, inachevé, inaccompli. Et heureusement. Et donc, retenez que l'être est partagé, et chaque être est partagé, c'est la chose la plus dure à admettre. Vous avez beaucoup de mal à admettre parce que ça ébranle vos approches faciles de l'amour. Vous avez beaucoup de mal à admettre que ce même être qui a été sublime est apparu, vous est apparu abject et l'a peut-être été. Ça gêne complètement votre amour narcissique. Et si vous découvrez ça en vous, c'est encore plus gênant. Or, l'approche de l'être implique d'avaler cette couleuvre, ou comme dirait Nietzsche, ce crapaud. D'ailleurs, voilà, avaler le fait que c'est le partage de l'être vous atteint, que vous n'êtes pas indemne de ce partage. Et ça nous amène à tout de même un des énoncés de ce livre, c'est que ce Heidegger, qui a fait tourner la tête à tant de gens, eh bien, il a mal encaissé son partage. Mais lui-même était partagé. Il était partagé. Et ben, entre la pensée de l'être qui le ventriloquait venant d'une source que lui refusait, et il tenait absolument à la formuler en termes grecs, disant que la pensée est grecque, la philosophie est grecque, etc. L'être est grec, et il le dit dans des termes hébreux. Et donc, en tant qu'objet, il a partagé beaucoup de monde, parce que des gens disent, mais comment a-t-il pu être totalitaire alors qu'il dit des choses qui sont fondamentales sur l'être? Eh bien oui, il dit des choses fondamentales sur l'être dont je montre dans ce livre la provenance directe venant du texte biblique. Il dit donc ces choses fondamentales, mais il les dit d'une manière qui ne fait aucune place à ce partage d'être qui s'appelle la transmission. La transmission, ce n'est pas le fait que vous transmettez quelque chose ou pas. La transmission, c'est le fait que vous êtes pris dans un enchaînement, une filiation, un passage d'être, une passation d'être qui vous porte et qui vous dépasse. D'ailleurs, une identité, c'est une référence à la transmission. Quelqu'un dit je suis de telle identité, ça veut dire voilà la transmission à laquelle je me rattache. Et s'il se rattache à une transmission parfaite, on cherche dans la valise pour voir où a été mise l'imperfection? Elle a été mise sur le compte de l'autre. Mais s'il relève d'une transmission imparfaite, bon, ça l'expose aussi parce que, et il y en a qui en savent quelque chose, qui l'ont payé de quelques millions d'êtres gazés, c'est que ça en fait des perturbateurs d'identité. Parce que si il relève d'une transmission qui est toujours inaccompli, inabouti, qui remet toujours en jeu la castration, le partage d'être, etc. C'est pas des gens très appréciés par les tenants d'une identité totale. Eh bien, Heidegger a tenté de totaliser une pensée de l'être qui n'était pas totale. Et la seule façon de le faire, c'est de la couper de sa transmission et de se l'auto-référer. C'est-à-dire qu'il devenait lui-même l'être pensant l'être. Et étonnamment, il n'y a aucune référence à la transmission dans son propos. Alors, il y a évidemment des transmissions à l'identique. Certaines identités sont portées par une transmission à l'identique. Et quand la transmission à l'identique se stratifie sur des siècles, après on se trouve devant un clivage énorme, explosif, dont on ne sait pas quoi faire, et qui est pourtant peut-être le questionnement le plus radical de nos modes de pensée. Je veux vous faire sentir que ces propos sur l'être et le partage d'être liés aux événements qui illustrent les difficultés du partage d'être, que ce soit chez les tenants de l'identité totale ou chez les tenants de l'identité humaniste et universelle, qui ont du mal à formuler le problème, car ça les partagerait, ça les distordrait de l'entité universelle et surtout sans exclusive à laquelle ils étaient habitués. Eh bien, il se peut que l'histoire nous fasse ce cadeau écrasant de nous forcer à penser ces questions dans leur essentialité, c'est-à-dire dans leur rapport à l'être. Et voilà encore un mot qui a été pourri par le pseudo-débat, c'est que quand on parle de choses essentielles, on vous dit que vous êtes essentialiste. Et moi, ça ne me gêne pas, d'autant que de plus en plus souvent, l'essentiel se décline au quotidien. Donc c'est le quotidien qui s'amuse à être essentiel. Et quand on dénie l'essentiel, eh bien, il va s'attaquer à votre essentiel, à votre réduit essentiel, qui est votre corps. Là, c'est l'atteinte au corps. Et là, c'est quand même le corps, c'est un de nos relais avec l'être. C'est du réel, d'abord. Ça fonctionne d'une façon réelle. Et surtout, c'est ce qui vous empêche de trop tricher avec l'être et avec le possible. Parce que si vous accumulez sur votre corps trop d'aveuglement sur le possible, vous vous mettez à les retrouver sous forme de somatisation, de symptômes, bref, de choses difficiles à vivre. Alors, est-ce que maintenant les différences identitaires vous sont plus claires? Je l'espère. Et je voudrais donc m'offrir encore quelques petites références. Et, par exemple, lorsque Heidegger cherche cette approche de l'être que j'explicite dans ce livre, il parle beaucoup du rapport à la terre, c'est-à-dire aux racines terriennes. Et je trouve que c'est un bel exemple. Évidemment, il considère que Je vous en ai parlé l'année dernière. Il considère que les Juifs feraient mieux de s'en aller tout seuls, sans nous obliger à les faire partir, parce qu'ils font partie d'une alliance internationale dangereuse. C'est-à-dire exactement le mot hébreu pour le peuple juif. Alliance. Alliance avec l'être. C'est comme ça que c'est écrit dans le livre. Et très étonnamment, ce rapport à la terre illustre bien sa façon de fermer la question de l'être, de la fermer sur soi, sur le narcissisme épanoui ou accompli ou à accomplir de son peuple qui est ancré sur sa terre et dans sa langue qu'il nous dit être la langue philosophique même, la langue de la pensée. C'est très amusant de voir cet homme qui exalte l'allemand comme la langue de la pensée, arriver à des formulations typiquement hébraïques sans le savoir. Vous pensez bien que ça m'a intéressé. Par exemple, lorsqu'il dit, et ça nous intéresse, lorsqu'il dit vers la fin que, au fond, ce qu'il y a, c'est l'événement, et l'événement Even arrive. En allemand, ça se dit Das Ereignis ereignet. Ça se boucle sur soi. C'est comme s'il n'y avait rien d'autre à en dire. Or, justement, la formulation biblique de cette chose est très intéressante. Parce que cette formulation, elle se dirait comme ceci. Amicré, Corée. L'événement, avec sa part de hasard, il arrive, c'est le même mot, tout comme en allemand, Micré, Corée. Sauf que Corée veut dire aussi qu'il appelle. Donc l'événement appelle. L'événement appelle à autre chose qu'à l'événement. Notamment, il vous appelle à faire acte de présence et à faire face. Et si vous dites, ben, c'est trop compliqué, ça pose trop de problèmes, vous vous dérobez à l'appel de l'être qui fait événement, c'est-à-dire qui percute des plaques identitaires, des barrières, des murs pour les faire parler et les mettre en question. Et donc, Heidegger rabat tout cela sur les racines terriennes, la terre, voilà du solide, qu'il doublera avec le ciel. Il y a la terre et le ciel. Expression qui est un vrai refrain dans la Bible. Je vous prends à témoin. Face au ciel et à la terre, vous trouverez ça très fréquemment. Le ciel et la terre étant deux localisations de l'être, deux positions d'être. Mais lui, il dit, voilà, c'est l'ancrage dans les racines. C'est ça qui est notre accomplissement, notre origine la plus propre. Alors que le même... Parce qu'il est très sensible à ces ondes bibliques, le même dira que notre lieu d'être le plus propre, c'est le n'être pas chez soi. C'est curieux, c'est-à-dire l'exil. C'est exactement ce que le livre répète, mais pratiquement dès les premières pages. Ce bon couple d'Adam et Ève, qui était bien chez soi au paradis, et qui immédiatement se retrouve hors de chez soi. Le deuxième couple, les deux frères, l'un se retrouve tué parce que l'autre n'a pas supporté l'altérité de cet autre. C'est ce dont je vous parlais. À son insu, c'est ce que je montre dans ce livre, eh bien, construit un rapport à la terre qui passe toujours par la promesse d'être. Vous avez un peuple, on dit, mais il n'a pas de terre. Si, il a une terre, mais qui est là-bas, à distance. Ça ne fait rien, on l'empêche d'y aller, mais il en parle. Et le fait qu'il en parle se transmet. Donc, on parle de la manière dont d'autres ont parlé. Dont d'autres ont parlé de cette terre. Cette terre où on est appelé à être. C'est un appel d'être. Sans plus. Et c'est déjà beaucoup. Être appelé à être sur une terre qui s'identifie à un appel. Ça, c'est intéressant. Donc la terre dont parle le livre hébreu, c'est un appel d'être récurrent et entrecoupé de chez soi, hors de chez soi. C'est tout à fait intéressant. Et si j'avais le temps, je vous développerais le rapport de tout cela avec le temps. Parce que vers la fin, Heidegger dit, non, ce n'est pas du Dasein qu'il faut partir, ce n'est pas de l'être là dont je vous ai montré l'équivalence avec le me voici biblique. Il dit, non, il faut partir de l'être. Et là, carrément, c'est le point de vue biblique. Mais il ne le dit pas. Parce que le livre ne fait que partir de l'être et lancer des événements d'être et observer comment les humains y réagissent, tout simplement. Et donc, c'est intéressant de noter que le temps, dans cette langue du livre, qui n'est pas l'allemand, qui est donc l'hébreu, le temps se dit de beaucoup de façons, dont ces deux-là que j'ai retenues pour vous. Le temps, par exemple, le maintenant se dit ata. L'instant, c'est aet. Et maintenant, c'est ata. Et ata, vous pouvez le décomposer en deux. Ça ferait aet, h. Ça veut dire le temps de l'être. Donc le maintenant, c'est le temps de l'être. Ce n'est pas simplement le présent qui fout le camp. Parce que le présent est habité par le passé, il habite l'avenir, il est noué, les trois temps sont noués. Donc le temps, l'instant, le maintenant, le commencement, car tout maintenant est un commencement, c'est le temps de l'être. Et l'autre mot pour dire temps, c'est zeman, qui est le même mot qu'en arabe d'ailleurs, zaman, mais dans l'hébreu biblique, Zeman, c'est quelque chose qui se conjugue, qui se décline. Par exemple, qui donne le verbe inviter, léazmin. Léazmin, inviter quelqu'un, c'est l'appeler à partager un certain temps, une certaine temporalité. Et une occasion. Ça se dit hizdamnout, une occasion, c'est-à-dire l'être qui vous envoie un petit bloc de temps, une bulle de temps, et vous la prenez ou pas. Si vous la prenez, alors vous touchez au temps de l'être. Si vous ne la prenez pas, très bien, vous restez dans le temps chronique ou chronologique, en attendant une autre occasion. Et donc, chaque fois que Heidegger fige certains concepts, même en y mettant de la négation, de la barre, il écrit l'être avec une croix pour dire que c'est pas, c'est marqué d'une entame, chaque fois qu'il dépose ces concepts, si on va voir leur correspondant dans la langue de cette incroyable transmission qui continue à monter à la tête à beaucoup de gens. Puisqu'après tout, le Coran, ça n'est qu'une version de la Bible complète, scellée, qui est, au dire même de son auteur ou ses auteurs, c'est achevé. C'est un achèvement de la Bible. Et la Bible ne se laisse pas achever. On n'achève pas la Bible. La Bible, c'est un germe du livre de l'être qui continue à l'infini, comme l'infini du possible. Voilà, je vais marquer une petite pause pour, j'espère avoir transmis les résonances entre cette question du partage d'être et le mot d'être face à l'événement. Et donc, le daseraigni seraignet ou amikre kore, où l'événement non pas arrive mais advient, pas très bien traduit, peut aussi se dire dans la langue du livre, soit l'être. Parce que dans le mot l'être, il y a il est et il sera. Et il a été. Autrement dit, soit ce qui a été ou soit ce qui advient. Autrement dit, vous trouvez sous cette formule apparemment absconse, heideggerienne, vous trouvez presque un petit refrain des psaumes qui est que Yahvé soit là ou avec nous, qu'on ne perde pas de vue Yahvé, qu'on ne perde pas par l'écoute sa parole, etc. Donc, gardez le lien avec l'être. Et c'est pourquoi j'ai terminé ce livre par quelque chose qui me tient à cœur, un exemple de lecture non seulement non édifiante ou non religieuse, mais du seul point de vue de l'être de certains textes que sont les psaumes, où on voit un sujet en proie dans son rapport à l'être, à l'événement destructeur ou salvateur, et il a une façon de parler de l'être qui est à la fois, qui nous est devenu étrange et qui pourtant est familière. Et je vous invite à y penser parce que c'est un champ existentiel absolument fascinant.
Est-ce qu'il n'y a pas une allusion à habiter son futur dans cette recherche de dépasser le savoir, le connu, quand Dieu dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ton pays, et va vers, il y a une incitation à aller vers son être, mais qui est justement à quelque chose qui est totalement ouvert et pas clos.
Alors, c'est peut-être plus complexe. Donc, l'idée d'habiter son futur, l'idée de que l'appel d'être qu'entend Abraham à partir, et moi je l'entends comme appel à partir vers le parcours qui s'ouvre, c'est-à-dire à être présent à ce parcours qui va se dérouler, être présent au parcours qui est le vôtre, c'est bien sûr, assumer le présent, supporter le passé qui se combine au présent, et c'est en même temps anticiper le futur. Abraham est un type qui a l'esprit très pratique, qui anticipe le futur au sens où il arrive au futur. Qu'est-ce que c'est qu'anticiper le futur? C'est pas prévoir le futur. Parce que si vous prévoyez le futur, vous êtes dans la prévision, il n'y a plus de futur. Anticiper le futur, c'est envisager le futur dans lequel vous serez partagé entre ce que vous avez désiré, ce que vous avez anticipé, et ce qui se présente, et l'événement qui se présente. C'est donc être ouvert à un certain renouvellement de l'être. Et quand je ne l'ai pas dit au début, mais ça va de soi, quand moi je dis l'être, c'est il y a de l'être en vous, mais vous n'êtes pas tout l'être, évidemment. Donc, aller vers votre être, c'est aller vers votre façon de prélever de l'être qui se présente, qui est présent. Et la présence, en latin, c'est le fait que l'être est là, se déploie. Mais en hébreu, c'est encore plus intéressant, parce que la présence, c'est Shekhina, ça veut dire, ça a pour racine l'habitation. Dans quoi vous allez habiter? Par quoi vous êtes habité? Quels sont vos voisins? Parce que c'est le même mot, Shachen. Shachen, c'est voisin. Et il y a des versets tout très, très beaux où l'être se fait parlant et dit, j'habiterai parmi vous. Et vous ferez un temple, ça sera le symbole de l'habitation de l'être. Non pas que l'être va être contenu dans le temple, mais dans le fait que l'être va se balader. Et donc, oui, vous pourrez toujours faire appel à l'être, c'est-à-dire à ce qui n'est pas vous, à ce qui vous porte et vous dépasse, ou à ce qui vous déborde. Et il faut pas oublier que, bien sûr, les religions sont venues mettre leur grain de sel là-dedans. On dit, voilà, l'être, c'est Dieu, et voici sa parole, et voici ce qu'il veut. Et ce qu'il y a de magnifique dans cet être biblique, cet anagramme, ce YHWH ou YHWH, c'est que, d'ailleurs, un des concepts majeurs de Heidegger, c'est le Gefühl. Et le Gefühl, je montre que c'est le tétragramme. Il ose l'appeler le Gefühl. C'est-à-dire le 4, le quadrupède, ouais, et aucune référence au tétragramme. C'est magique, c'est très intéressant. On a l'impression qu'il est ventriloqué par un discours qui le précède. Et donc, attendez, où en étais-je là? Oui, c'est ce par quoi vous êtes habité. Et le mot habitation, et dont il fera grand cas, mais au niveau de l'ancrage terrien, voilà l'habitat, le fait qu'on est dans le heim, dans le heimat, dans la patrie, dans le. Voilà. Alors que de l'autre côté, les Hébreux, ils apportent non pas le heimat, mais le unheimlich. C'est-à-dire, pas l'inquiétante étrangeté, mais l'étrange familiarité. C'est-à-dire quelque chose qui est à la fois dedans, dehors. Eh bien, c'est donc en rapport avec un acte, une action de construire des symboles qui rappellent que l'être ben oui, se promène. Se promène, ça veut dire, et là, est disponible et insaisissable, que c'est en fait une fonction d'être. Voilà, c'est ce point-là que j'avais oublié, et c'est que l'idée de temple est une idée dangereuse quand on en parle comme ça. Le temple, où se trouve, parce que le temple, ça réfère aussi au temple grec. C'est au temple où se trouvaient les dieux grecs, etc. Mais dans l'hébreu, ce n'est pas temple, c'est maison de l'être. Et le discours inaugural de Salomon, quand il inaugure le temple construit, il dit, est-ce qu'un bâtiment peut contenir l'être? Non! Et il le pose. Mais quand des gens de ton peuple vont en appeler à l'être, alors ils lanceront cet appel vers ce lieu et ce sera entendu par ailleurs. C'est donc les lieux sont eux-mêmes des transitions d'être. Alors, je ne vous l'avais pas dit, mais le fameux voici, dont je vous ai dit que le me voici, c'est la version biblique du Dasein, qui est quand même plus que le là de l'être. Dasein, c'est le là de l'être, le là de mon être. Voilà, je suis là. Ben oui, mais je peux être déposé là aussi. Donc, me voici, il y en a trois là-dedans. C'est je, vois, voilà, si, là, ici. Donc, on est trois, on est moi et ce lieu sous le regard de l'être. Or, le même mot, iné, parce que inéni, c'est me voici, le même mot, iné, H, N, H, vous pouvez le couper en deux et ça donne N, H, M. Voici le nom. Ce n'est pas ex homo, ce n'est pas voici l'homme. Encore que dans la logique chrétienne, ça peut être voici l'être accompli. Mais là, si on est dans l'inaccomplissement, c'est voici l'être. Or, il y a un très beau verset, de très beaux versets, nombreux. Par exemple, celui, un verset d'Isaïe qui dit, voici, voici l'être, par lequel je serai aidé. Et qui va me culpabiliser? C'est dit comme ça. Autrement dit, devant la surcharge de culpabilité, c'est-à-dire qu'il vous met, il vous tient par la nuque et vous met le nez dans le manque à être, dans la faute, il y a toujours de l'être. Il n'y a pas que le manque à être. Donc il dit, En Hashem Yahazor Li. Ça veut dire, voici l'être. Par quoi? Par qui je serai aidé. Voilà, mais tout ça, c'est à côté. Donc, vous avez des questions? Oui?
Les auteurs des attentats récents, leurs commentaires me paraissent relever évidemment d'un exemple de non en rapport à l'être en partage. Est-ce que on peut aller plus loin dans la caractérisation de leur comportement que justement à partir de ce mode de pensée, du rapport à l'être?
C'est-à-dire que dans le système identitaire dont il relève et dont, à mon avis, c'est trop facile de dire il y a parmi eux des bons et des mauvais, parce que souvent c'est des bons qui deviennent mauvais. Ils étaient bons la veille et puis ils sont devenus mauvais, puis les mauvais parfois redeviennent bons avant de redevenir mauvais. C'est la vie, c'est le mouvement de la vie. Donc on ne résout pas ces problèmes en disant, parce que moi j'ai dialogué avec, je vais d'ailleurs publier mes dialogues un peu difficiles avec des tenants de cette identité, mais on ne résout pas en disant il y a des mauvais. Moi, je pense qu'il y a un système qui a été construit et qui dit voilà, tout ce message-là, cette partie positive, nous est venue en direct, on ne l'a reçue de personne, nous est venue en direct, c'est à nous. Mais les autres ne peuvent être que néfastes en tant qu'autres. Il y a une très jolie citation de Lévi-Strauss dans Triste Tropique à la fin, qui dit, à côté de la bienveillance bouddhiste, du désir de dialogue chrétien, il trouve que l'identité musulmane a un problème avec l'autre et que, si tolérante qu'elle puisse être, il y a un moment où l'autre, comme tel, en dernier ressort, fait problème et il parle de néantisation de l'autre. Donc, il y a, moi je crois que c'est un cas intéressant et on est sur Terre, mon Dieu, pour affronter des cas difficiles et intéressants. Et de toute façon, si on évite de les affronter, c'est eux qui nous affronteront. Donc, autant penser. Et pour moi, c'est d'une simplicité de plus en plus claire. C'est que les autres, les tenants tranquilles, on va dire, de cette identité, ils se sont fait leur conviction à eux. Ils disent, moi, mon islam, à moi, c'est la prière, la charité, le pèlerinage, la justice, etc. Et je dirais, narcissisme oblige, ils pensent que c'est ça le vrai islam. Et donc, je vous ai dit que certains, je les ai vus angoissés, parce que quand je lis avec eux des fois le texte fondateur, ils disent, ah mais moi je ne connaissais pas ces versets. Ben oui, tu ne les connais pas, mais eux, ils te connaissent. Donc, tu vas cogiter un peu ça. Donc, on a cette double strate, donc message pacifique et cerclage agressif contre tout autre pour protéger, selon moi, l'appropriation du message. Si le message venait vraiment de tout ailleurs, s'il n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait avant, il n'y aurait pas besoin d'islamiser tous les Hébreux de la Bible, il n'y aurait pas besoin de taper sur les tenants de la Bible, etc. Donc, et pour protéger une appropriation. Très bien. Alors, ben, il y a tout un travail à faire pour se déproprier. Et ce que j'ai dit d'ailleurs à l'imam, c'était, je vous propose de dire à vos fidèles que ce qu'il y a de bien chez vous existe aussi chez les autres. Et je ne vous demande pas de dire qu'il provient des autres, mais vous dites qu'il existe chez les autres. Et vous dites aussi que les tares qu'il y a chez les autres existent aussi chez vous. Et j'ai ajouté, et puis si vous pouvez faire une courte prière pour demander que votre Dieu cesse de maudire les autres, ça mettra du calme dans l'atmosphère. Donc, voilà. Et pour moi, il n'y a pas besoin de plus. On peut toujours faire de la psychologie et dire « Celui-là, il a eu un père carent, il avait des problèmes économiques. » Et puis, l'histoire, elle est cruelle parce qu'elle vous présente des gens qui ont eu papa, maman, qui sont bien, tranquilles, etc. Ils sont dans un joli appartement avec un bon travail. Conduire un bus de la RATP, c'est pas rien, etc. Et qui sont passés à l'acte. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle en mathématiques des contre-exemples pour empêcher cette vision systématique. Mais si j'ai réussi à vous aider à réfuter l'idée d'amalgame et de non-amalgame par cette idée simplement qu'il y a deux parties, que quel que soit le groupe suffisamment dense, il existe une probabilité pour qu'une partie fonctionne et fasse parler l'élément agressif. C'est tout. C'est simple et le problème qui en résulte est assez complexe.